RCF.
André Wénin, nous parlons avec vous de la fraternité, un thème qui traverse le livre biblique de la Genèse et que vous avez beaucoup travaillé. Nous évoquions avec vous le récit de Caïn et Abel, une histoire qui se termine mal à cause de la violence de Caïn, qui, faute d'avoir été reconnu et parlé, se transforme en meurtre. Vous nous avez dit que Caïn est pris dans une relation possessive vis-à-vis de sa mère Ève, et vous dites qu'il faut remonter plus haut dans le texte pour bien comprendre que l'impossible fraternité des fils s'ancre dans le couple des parents. Donc ça commence donc avec Adam et Ève, quand Adam reçoit la femme que Dieu lui présente. Vous dites là qu'il ne la reconnaît pas vraiment, qu'il y a un problème aussi avec l'altérité.
Oui, donc effectivement, pour reprendre le début de ce que vous avez dit, c'est une des choses qui est une constante dans la Genèse, c'est que la relation des frères, ou entre les frères, est toujours compliquée, aussi parce qu'il y a un lien aux parents particuliers. Les parents ne posent pas les enfants dans la vie dans une situation idéale. Il y a toujours du côté des parents, et c'est inévitable, nous sommes humains, il y a toujours des préférences, il y a des situations qui font que, pour les frères, ça devient difficile de construire un lien de fraternité.
Donc il faut remonter aux parents.
Il faut remonter aux parents. C'est comme ça que, dans la première émission, j'ai parlé brièvement de la naissance de Caïn et d'Abel, une naissance qui positionne les deux frères dans une situation particulière. Caïn, dans la fusion avec sa mère, Abel, on ne sait pas trop où, mais en tout cas inconsistant. En réalité, tout ça, ça vient... Ce rapport entre l'homme et la femme est construit dès le chapitre 2, à la fin du chapitre 2, lorsque, après la création de la femme, je vais en dire deux mots, Adam réagit d'une certaine manière. En fait, la création de la femme, elle est présentée comment ? Elle est présentée, et c'est peut-être pas très habituel dans notre représentation, cette création, en fait, il s'agit d'un être humain, donc le Adam, l'être humain, qui est un être indifférencié, un être ni homme ni femme, ou les deux à la fois. Un certain nombre de rabbins font déjà cette lecture. Et ce que Dieu va faire, c'est de couper en deux cet être humain, de côté. D'ailleurs, le mot qu'on traduit habituellement par côte ne signifie jamais côte, ça signifie toujours un côté. Et il va transformer un de ses côtés en femme pour offrir, en quelque sorte, ou présenter cette femme à celui qui, comme résultat de l'opération, est né homme, désormais homme. Et la manière dont l'homme donc, va réagir, c'est une certaine manière de mettre la main sur la femme. D'ailleurs, la façon dont il met la main sur la femme est évidente, parce que même si son cri est un cri émerveillé, c'est dit cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme, en fait, on peut se rendre compte qu'il ne s'adresse pas à la femme. Il fait de la femme l'objet de son discours, la femme n'étant pas posée comme un sujet qui va lui répondre, qui va lui dire « tu » lorsque lui lui aura dit « tu ».
Vous voulez dire qu'il parle sur sa femme, mais il ne parle pas à sa femme.
Exactement. Autrement dit, il ne met pas sa femme en position de sujet répondant, alors que ce que Dieu veut créer, c'est précisément un secours comme son vis-à-vis qui implique précisément une entrée en dialogue. Et donc, une autre manière de dire aussi, c'est que quand il dit « elle a été tirée de l'homme », en fait, il se trompe, ou plus exactement, il s'illusionne que la femme est un morceau qu'on lui a enlevé, alors que lui est aussi, comme la femme, un côté de l'être humain qui a été coupé en deux.
Oui, on ne parle pas de l'homme, mais de l'être humain.
Voilà,
donc c'est pas lui le centre.
C'est pas lui le centre, mais il se fait le centre dans sa parole, puisqu'il dit « elle a été tirée de moi, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair ». D'une certaine façon, il y a là une sorte de prise de possession de la femme, qui est quelque chose de relativement courant, parce que quand on se trouve devant l'étranger, on préfère le neutraliser en quelque sorte, en le mettant dans ses propres cases. C'est exactement ce que Adam fait avec Ève.
André Wénin, vous nous parlez donc de la naissance du couple qu'on idéalise souvent, hein, un couple qui s'aimait, voilà, dans l'harmonie, il y a l'idée du paradis avant la chute, et vous dites que les choses ne sont pas aussi simples.
Non, absolument, et parce qu'en fait quand on lit ce texte, on est en général dans le fantasme, c'est pas par hasard qu'on lit ce texte à des mariages. Mais donc, ce qui est important, c'est aussi que dans cette scène-là, non seulement l'homme prend possession symboliquement, reprend en quelque sorte ce qu'il estime lui avoir été pris à lui, homme, en fait, la femme ne réagit pas. La femme se laisse dire, en quelque sorte, elle se laisse prendre dans le discours de l'homme comme si c'était comblant d'être l'objet comblant de quelqu'un, si je peux dire. On a remarqué qu'on s'agit bien d'un objet comblant, un manque, l'homme devant le manque, cherche à combler ce manque.
Vous voulez dire que Adam ne veut pas de manque, il est dans une vision totalisante.
Exactement.
C'est lui et sa femme, mais il n'y a, voilà, pas de manque entre les deux, voilà, pas d'altérité.
Il n'y a pas d'altérité, donc lui, comme personne, ne vit pas le manque.
Et donc pas de parole. Et
donc pas de parole, c'est exactement pour ça qu'il n'y a pas de dialogue entre, vous pouvez, entre Adam et Ève, il ne parle pas. Mais donc Ève ne réagit pas à ça, elle se laisse prendre dans le discours de l'homme, et on va expliquer après l'histoire du serpent, comment Ève est dans la même dynamique, c'est-à-dire que quand le serpent va lui dire « alors Dieu vous a interdit de manger de l'arbre, de lui connaître bien et mal, etc. », elle va se laisser entraîner par le serpent dans une logique où elle non plus n'accepte pas de manque, puisqu'elle va prendre et manger de l'arbre que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas en manger, et cette fois-ci c'est l'homme qui va suivre la femme sans maudire. Autrement dit, on voit comment chacun, donc dans ces deux scènes, la création, dites la création de la femme, et puis la scène avec le serpent, on voit comment et l'homme et la femme se laissent entraîner dans une dynamique que j'appelle convoitise, qui est celle d'un désir qui ne tolère pas de manque, que ce soit dans le manque relationnel ou dans le manque par rapport à l'existence. Ça, j'appelle ça la convoitise, et c'est ce qui pervertit la relation entre sujet et sujet. Pour expliquer ça, je prends souvent cette idée assez simple, qu'au fond, quand quelqu'un est animé par l'envie ou par la convoitise, il va positionner l'autre dans trois positions possibles. Soit l'objet de sa convoitise, l'autre est quelqu'un à prendre, soit l'instrument de la convoitise, je vais utiliser l'autre pour satisfaire mon propre désir, soit l'obstacle à la convoitise, et donc l'autre va venir m'empêcher d'avoir ce que je veux, d'assouvir mon désir. Mais dans ces trois positions-là, l'autre n'est jamais sujet. L'autre n'est jamais sujet de partage, il n'a jamais son mot à dire, il est comme satellisé par mon désir. Et quand l'autre est satellisé par mon désir, comment voulez-vous construire une relation juste avec lui? Et si vous ne construisez pas une relation juste avec lui, ce qui est le début de l'histoire de Caïn, vous enfantez des gens qui vont être pris dans cette dynamique pervertie, qui pense d'une certaine manière que le désir n'est désir que s'il est complètement assouvi, que s'il n'a aucune limite.
André Wénin, nous comprenons avec ce que vous nous avez expliqué que Ève est l'objet de la convoitise d'Adam. Elle-même va vivre un rapport de convoitise avec le serpent. Et donc ça va retomber sur Caïn, son fils, qu'elle prendra aussi comme un objet. Donc les choses s'emboîtent.
Exactement. Donc on est véritablement dans une dynamique où ce qui se passe à une génération se reproduit en quelque sorte à l'autre génération. Elle se reproduit non plus entre homme et femme, donc dans le couple, elle se reproduit cette fois-ci entre frères. On pourrait montrer comment elle peut se reproduire par après avec l'étranger.
Alors ce que vous dites aussi, c'est que les conséquences de la convoitise, ça va être des rapports de domination et de violence. C'est ce qu'il faut comprendre quand Dieu dit à Ève « Vers ton homme, ton avidité, et lui dominera sur toi ». C'est après le récit de la chute.
C'est la suite, donc c'est quand Dieu vient de nouveau parler avec ceux qui ont mangé du fruit, donc ceux qui se sont laissés faire par la convoitise. Il vient d'une certaine manière non pas les punir, mais expliciter les conséquences que ça va avoir. Quand on est dans la convoitise, on est dans la volonté de dominer l'autre, l'homme dominera sur toi, on est dans des rapports où on va chercher... Où l'avidité, donc l'avidité va faire de l'autre un objet. Et en fait, cette parole va se concrétiser dans le chapitre 4, au début du chapitre 4. L'homme va exercer sa domination sur la femme, et la femme va exercer sa capacité d'assouvir son désir avec son homme qui est en fait son fils.
En se soumettant au serpent, donc à sa logique de convoitise, qui dit en fait, vous pouvez tout avoir, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de manque. Les humains, donc, vont tendre à ressembler à l'animal. C'est ce que vous dites dans vos livres. C'est-à-dire que l'animalité prend le dessus. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, dans le récit avec Caïn, quand Dieu parle à Caïn, il lui dit « il y a l'animal tapis en toi ». Attention, qu'est-ce que tu vas en faire ?
Tout à fait. En fait, ça relève d'une thématique qui est présente dans les trois premiers chapitres de la Genèse, puisque la première chose que Dieu donne comme tâche à l'être humain, c'est de dominer les animaux. au chapitre 1. Autrement dit, le premier enjeu de l'humanisation, elle est de l'ordre de maîtriser l'animal, non pas l'animal extérieur, mais l'animal que chacun porte en soi, c'est-à-dire, a priori, pas quelque chose de négatif, mais des forces de vie bouillonnantes qui, si elles ne sont pas canalisées, si elles ne sont pas d'une certaine façon contrôlées ou orientées, risquent alors de déborder en violence. C'est ce que Dieu dit à Caïn, il y a un animal en toi, tu peux le dominer, mais Caïn ne le dominera pas parce qu'il ne passe pas par la parole, comme nous disions la fois dernière.
Donc l'intérêt, c'est de reconnaître que en soi, il y a ces forces-là de vie, mais aussi qui peuvent nous entraîner dans vouloir prendre, vouloir faire de l'autre un objet, refuser la parole.
Absolument, oui, tout à fait. Et donc, moi, je prétends que le serpent, qui est mis en scène au début du chapitre 3 de la Genèse, représente la convoitise qui est en nous une sorte de force vitale, parce que ça nous pousse en avant, le désir nous pousse en avant, mais une force vitale qui, si elle n'est pas contrôlée, si elle n'assume pas une juste limite, risque de devenir violente et donc d'empêcher ce à quoi l'homme est destiné, c'est-à-dire créer une relation juste, correcte, avec ses semblables et éventuellement aussi avec Dieu. Ça va de pair d'ailleurs.
Et la fraternité passe par ça.
La fraternité, elle doit conjurer ce danger de la convoitise. Si elle ne conjure pas le danger de la convoitise qui se décline en jalousie, envie, etc., comme Caïn n'arrive pas à le faire, elle ne peut pas se construire.
Mais voilà la responsabilité des éducateurs quand même, de ceux qui donnent la vie, qui la transmettent.
Ah, je ne vous le fais pas dire. Effectivement, ces textes peuvent être lus non pas seulement comme celui qui doit construire une fraternité, mais comme celui qui, étant en amont du groupe des frères, a à agir de telle sorte que la fraternité soit possible entre les frères, ce qui n'est pas toujours facile.
Merci André Vénin, à demain.